Beaucoup de péripéties, nous sommes arrivés au chapitre 9, verset 18. Ça donne Perek Tet, Pasuk Yotret. Nous sommes dans l'après-déluge. Donc nous sommes dans l'après-déluge. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'après-déluge? Dieu a promis de ne plus déluger et il a donné son signe d'alliance avec nous. La fameuse arc-en-ciel dont on avait déjà parlé.
Ça commence à faillir.
Voilà.
Cette semaine, j'ai reçu par internet un arc-en-ciel qui faisait tout le tour. Tout le tour. Mais je ne sais pas où ça a été pris. Okay.
Moi, je ne l'ai pas vu. Mais par contre, j'ai vu des trucs sur Facebook. Oh là là, on n'a pas vu d'arc-en-ciel rond depuis la sortie d'Égypte en l'an. Attention. Ça veut dire que la Géoula est proche, ma chère va venir. Faites tes chouva.
Moi, je t'ai dit ça quand j'ai vu l'arc-en-ciel.
C'est David qui a dû écrire ça.
Non.
C'était la photo d'un arc-en-ciel et c'était beau. C'est tout. Nekouda, c'était beau. Oui, non, mais... C'était beau.
En tout cas, iné. Donc, nous sommes dans l'après-déluge. ויהיו בני נוח היוצאים מן הטבע שם וחם ויפת וחם הוא אבי כנען. Tout de suite on nous présente Ham comme étant pas vraiment celui qui va avoir une influence, mais il est le père de Canaan. Semble-t-il que c'est parce que Canaan est son fils que Ham se comporte comme ça. C'est-à-dire que d'habitude ce sont les parents qui influent sur leurs enfants. Ici il semblerait que ce soit l'inverse. Que ce soit Kenaan qui influe sur Ham. Ok. Shlosha ele ben Noach ou meele nafza kol haaretz. Vayachel Noach isha adama vayita kar. Noach nous est présenté ici comme étant un agriculteur. Isha adama, l'homme de la terre. Et d'ailleurs, c'est tout à fait vrai. On avait vu à la naissance de Noach qu'il avait été appelé Noach parce que Zeyenachamenu mimaasenu mitzvon yadenu, c'est lui qui va enlever notre douleur, notre tristesse à cause du travail difficile, laborieux de la terre. Nos sages nous diront que c'est lui qui a inventé la charrue pour permettre de travailler la terre sans avoir trop de mal. Et on avait dit Noach naît le jour où Adam meurt, donc la fin de la malédiction de Adam. La terre a été maudite à cause de lui. Donc maintenant qu'il n'est plus là, alors on peut recommencer quelque chose. Donc Noach et Ish à Adama. Et qu'est-ce qu'il fait après le déluge? Vaïta Karem. Il a planté une vigne. D'où est-ce qu'il avait cette vigne?
Il avait du vent dans l'oiseau.
Hein, il avait la portée avec lui dans la Teva.
Oui, c'est pas le corbeau.
Non, c'est pas le corbeau. Lui, il a amené une feuille, un rameau d'olivier. Pas le corbeau, mais la colombe. La colombe. Donc là, Vaïta, Karem. Vayesht minayayin. Ah. Pourquoi il a fait ça?
Pour s'enivrer.
Pourquoi faire?
Pour oublier.
Ben oui, pour oublier. On avait déjà parlé. Ah, on avait déjà parlé. Top, mais c'est d'accord. Non, mais je me rappelais plus exactement dans quelle version c'était arrivé. Oh, très bien, très 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 bien. Et donc, non, mais on avait dit aussi que Shem va Yefet. On avait expliqué ce que ça veut dire Yefet. Ça ne veut pas dire beau.
Non
on n'avait pas dit. Non, bon, très bien. Alors on y va. Effectivement, il boit pour oublier. On est après le déluge.
Oh, le stress.
Mais tu imagines, c'est terrible de devoir passer à la reconstruction. C'est-à-dire que tu laisses tout un monde derrière toi. Ceux qui vont naître maintenant, ils ne savent pas ce qu'ils ont perdu. Mais toi, tu le sais. Vayesh minayin vayishkar vayitgal betoch haolo. Vayar Ham avi Kenaan. Ine, Ham est représenté comme étant le père de Kenaan. Et ervat aviv. Vayaged lishne echav bachutz. Pourquoi est-ce qu'il a été dormir nu?
Pourquoi pas?
Je ne sais pas, le pyjama.
Je ne sais pas si à l'époque il avait chaud.
Alors, la vérité, c'est que c'est toi qui as raison. Quand tu regardes dans le Talmud, tu vois que les gens, c'était l'habitude, quand il fait en été, d'aller dormir nu. C'est pas du tout étonnant de trouver des gens qui dormaient nus à l'époque. À tel point que la Gemara, elle va se poser la question, mais si elle est Nida, est-ce que tu as le droit de dormir nu avec elle, machin? Donc, de là, tu apprends, alors, les gens, ils dormaient nus, ils connaissaient pas le pyjama. Quoique, il y a quand même quelque chose qui s'appelle Ksout Laila. Ksout Laila, c'est quoi? C'est une chemise de nuit, comme ça. Là, soit il avait chaud, soit il veut revenir à l'état originel. Alors il est censé recommencer le projet qui avait commencé avec Adam. Alors, au début, Adam, il était nu. Donc il veut revenir à l'état originel. De la même façon, il va boire de cette même vigne, nous dirons Chazal, que Adam avait, John avait utilisé de Etzadat, d'après l'avis qu'il s'agit d'une vigne.
On sait à quelle époque, à quel moment de l'année c'est, si en été, en hiver, machin.
Ah bah, c'est pas exact. C'est-à-dire qu'on sait quand est-ce qu'il est sorti de la Teva.
Oui.
Oui, en Cheshvan.
D'accord. Ouais.
Mais peut-être qu'il a attendu après pour planter la vigne et en récupérer des fruits. Bah, fruits donc, a priori, la récolte du raisin, c'est en juin, juillet. Ouais. Donc, effectivement.
C'est en septembre.
Ça commence pas en septembre.
Ah bah les vendanges.
Elle commence en septembre.
En France.
Non, elle finit en septembre.
En France.
En France, parce que je sais pas, mais en Israël, ça commence pas en septembre. Hein.
Bon, Israël, je sais pas. En France, ça commence un peu plus avant, mais enfin, c'est pas.
Août.
C'est pas en juin.
Août. On s'accorde sur août.
Oui, je dirais août.
Allez, banco pour août.
C'est bien.
Dans tous les cas, il fait pas froid.
Non.
De safe. Donc, quoi qu'il en soit. C'est pas seulement une question de chaleur, c'est une question de vouloir continuer, ou du moins faire un reboot de ce qui s'est passé avec Adam Arishon. Et donc, Vayacham avikenaan et ervat aviv, vayaged lishne echav bachutz. Le fait qu'il a vu, c'est une chose, mais pourquoi il a été le dire aux autres? C'est-à-dire, il a été poussé par Knaan. Knaan, on va le connaître bien beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'avenir. Et on sait que les peuples cananéens sont d'une dépravation totale au niveau de la Herva. Et donc, semble-t-il qu'encore une fois, comme on a dit, il est influencé par son fils. Vaikar Shem vayefet et simla et asimla zecha vayasimu al shechem sheneem vayelchu achoranit vayechassu et ervat aviem ufenehem achoranit vayervat aviem lorao. On connaît, voilà, ils ont pris la couverture, ils ont été en arrière pour ne pas le voir et ils l'ont recouvert. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de tous ces détails? Alors, bien sûr qu'il y a une dimension de kavod, de kibud avaim, beseder gamour. Mais qu'est-ce que ça représente également? On est mechassé à la erva. Maze erva. Erva, c'est l'endroit qui est, d'un côté, ce qui nous permet de donner la vie, mais c'est d'un autre côté, depuis Adam Arishon, ce qui nous fait honte. Et donc, le kisouy à erva, c'est pour dire que la vitalité, c'est quelque chose de personnel, de très profond. Et donc, ce n'est pas quelque chose dont on fait commerce, ce n'est pas quelque chose dont on va commencer à dire à tout le monde. Donc, oui, pour la herva, mais pas pour la voir. Et donc, Emchissou. Mais qui a pris l'initiative? Shem. Shem prend l'initiative. Et donc, à ce moment-là, « Vaikatz noach miyeino, vayeda et asher asa lo beno akatan » Donc, il est au courant de ce qu'a fait Ham. « Vayomer arur kenan » Pourquoi Arur Kenan et pas Arur Ham? Parce qu'encore une fois, celui qui est le cerveau derrière Ham, c'est Knaan, son fils. Ok? Donc Arur Kenan, Eved Avadim Yé Le'echav. Il sera le serviteur de ses frères. Donc de qui? De Yefet et de Shem. Est-ce que ça s'est réalisé? Lorsque Yehoshua a conquis la terre d'Israël, les Cananéens sont devenus les esclaves des enfants de Shem, nous. Et lorsque les Romains ont réussi à détruire l'empire de Carthage et à prendre tous les rescapés en esclavage, eh bien, ils sont devenus Cananéens. Les Carthaginois, c'était des Cananéens. Ils sont devenus les esclaves de Yefet, Rome. Quoi ? C'est pas que la Grèce. En l'occurrence, Rome aussi est un descendant d'eux. Ok, donc ça s'est réalisé. Est-ce que c'est une punition ou est-ce que c'est un tikkun? Dans le judaïsme, vous remarquerez qu'il n'y a pas de prison. Ça n'existe pas la prison. Quelqu'un qui a fait un délit et qui n'a pas de quoi rembourser, qu'est-ce qu'il fait?
Il se met en esclavage.
C'est-à-dire qu'il va bosser, faire des travaux d'intérêt généraux. Il va apprendre aussi, c'est-à-dire qu'il va rembourser sa dette et en plus il va apprendre comment on se comporte chez des gens bien. Donc voilà ce qui se passe avec Ram, avec Naan. On le dit, va apprendre chez des gens meilleurs que toi. C'est ça? Eved avadim yelecha. Vayomer Baruch Hashem Elohe Shem. C'est pas mal. C'est la première fois qu'on dit Baruch Hashem. Le premier qui dit Baruch Hashem, c'est Noach. Baruch Hashem, Elohe Shem, Veikenan, Eved Lam. Ça, c'est pour Shem. C'est lui qui est l'initiative, Baruch Hashem. Aval Yaft Elohim le Yefet, Veishkon Beoal Shem, Veikenan, Eved Lam. Vas-y, Yaft Elohim le Yefet.
Agrandi.
Agrandi, exactement. On a dit Yefet, ça ne veut pas dire la beauté, ça veut dire l'expansion. La beauté, bien sûr que ça ressemble. Yafet, Yefet. Parce que la beauté est la première chose qui va conquérir au loin. C'est la première chose qu'on va voir de loin. Donc, Yefet, son truc, c'est l'expansion, mais il doit être tout le temps dans les tentes de Shem. C'est-à-dire que quand son expansion va-t-elle être une bénédiction pour le monde ? Lorsqu'il sera connecté à la tente de Shem. Donc, c'est quand que la société occidentale peut être une bénédiction pour l'humanité, lorsqu'elle a dans sa bibliothèque et qu'elle s'y réfère à la Torah.
Est-ce que ça ne peut pas vouloir dire aussi que, quand même, il y a la notion de beauté de Yafet ?
Bien sûr.
Il faut qu'il soit.
C'est la même chose, en fait. La beauté de Yafet qui doit être au service de la valeur et de la morale de Shem, c'est bien sûr. Bien sûr. Tout seul, le problème, c'est qu'après, il n'y a plus d'objectif. Vous rappelez que Shem, ça veut dire l'objectif. Donc, s'il n'y a plus ça...
Il faut que ce soit dans une communauté.
Mais un ordre social qui aurait des valeurs bonnes. Parce que si l'ordre social n'a comme valeur, comme simple valeur, que l'esthétique, ça crée une société terrible. Société terrible. Ok. Besseder. ויחי נוח אחר המבול 300 שנה וחמישים שנה. Il a vécu 350 ans. ויהי כל ימי נוח 900 שנה וחמישים שנה וימות. Ça y est, 950 ans, il passe l'arme à gauche. Il mange les pissenlits par la racine. Quoi?
Je ne sais pas s'il mange quelque chose.
Ah, c'est ça. Maintenant, on avait dit qu'il y a un problème parce que on a dit que le déluge a commencé quand il avait 600 ans, qu'il a vécu après le déluge 350, mais que le déluge a duré un an. Donc il aurait dû vivre en tout 951 ans. On avait expliqué que le temps ne passe pas de la même façon à l'intérieur de l'arche et à l'extérieur de l'arche.
Ça, j'arrive pas à comprendre.
Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre ?
J'arrive pas à comprendre.
Un miracle, ça ne te dérange pas ?
Non, que tu dises que le temps n'était pas le même, j'ai du mal.
Mais tu as du mal, quoi, physiquement parlant ?
Oui.
Alors, le fait que Dieu il fasse arriver tous les animaux deux par deux, machin, ça, c'est pas de problème.
Non.
Ah bon ?
Non. Parce que c'est visuel.
Ok.
Imaginez, alors que ça, on ne peut pas. Elle m'explique la raison.
C'est bien.
Les astronautes et tout ça, ils ont aussi. Ils ne comptent pas le temps comme s'ils étaient sur la Terre.
Oui.
Quand ils tournent, c'est la même.
Non, c'est pas ça.
Quand ils sont leur corps vit plus.
Ouais, mais
enfin,
attendez.
Il y a un truc
Non, tu as raison. En fait,
le corps d'un astronaute vit plus.
Oui, mais c'est pas.
Il vit davantage.
En fait, le temps nous a appris, Albert.
Oui.
Bébert, bien sûr.
Comme on l'appelle, Bébert une pierre.
Ron Einstein.
Oui. Donc Bébert une pierre nous a appris que le temps, en fait, dépend de la masse, dépend de la vitesse. Et que donc, ça veut dire qu'un astronaute qui est en position géostationnaire autour de la Terre, ça ne se ressent pas. Peut-être que c'est vrai au niveau mathématique, que son corps il va un tout petit peu bever, mais ça ne se ressent pas. Mais effectivement, la question est posée, si on voyageait maintenant à la vitesse de la lumière. Voilà. Alors, l'un des paradoxes, c'est de dire, est-ce qu'on peut voyager à la vitesse de la lumière ? Mais disons qu'on va se rapprocher de la vitesse de la lumière. Alors, c'est ce qu'on appelle le paradoxe des jumeaux, où tu as deux jumeaux, un qui reste sur Terre et l'autre qui voyage à la vitesse de la lumière pendant un an. Et en fait, on va voir ce qui va se passer et que les deux ne vont pas du tout avoir, leurs cellules ne vont pas vieillir de la même façon entre l'un et l'autre. Donc, ça, c'est au niveau de la physique, de la théorie de la relativité générale. Maintenant, une fois qu'Einstein nous a expliqué ça, et c'est très facile de comprendre le verset.
Absolument.
Peut-être que dans l'arche se passait un autre plan d'existence, comme quand tu voyages à des vitesses folles. Ok ?
Mais qu'est-ce que ça vient expliquer au niveau philosophique.
Ah, ça vient expliquer que 40 jours, 40 nuits, c'est le temps où on reçoit la Torah, ce qu'on avait dit la dernière fois. Et c'est ce, que, noir, qu'il a, c'est ce qui lui arrive dans la Teva. Alors que dehors, se passe un cycle naturel. Un cycle naturel, c'est un an. D'accord ? Ok. Ve'ele toledot bene noach shem ham vayefet ve'yivaledu lahem banim achar amaboul. Achar amaboul, ça veut dire juste après le déluge. Il y a une différence entre achar et acharé. Lorsqu'il y a marqué dans la Torah achar quelque chose, c'est juste après. Lorsqu'il y a marqué acharé quelque chose, c'est que ça s'est passé longtemps après. Donc là, on commence à repeupler la planète juste après le déluge. Et c'est qui les enfants alors ? Bene Yefet, Gomer, ou Magog, ou Madai, ve Yavan, ve Tuval, ou Mesher, ve Tiras. Il y a des noms qui nous sonnent connus.
Tiras.
Bon, Tiras, non. C'est vrai que Yavan. Le maïs, c'est pas. Mais Yavan. Tu faisais référence tout à l'heure à la Grèce, effectivement.
Magog.
Alors, Magog. On va connaître ça dans la prophétie de Yéhézkel, dans le chapitre 38, de Gog ou Magog, effectivement. Ce serait vers la Perse. Au niveau géographique. Je ne dis pas que la Perse, c'est forcément... Non, c'est-à-dire, c'est une des possibilités que la Perse prenne le rôle de Milchemet Gog ou Magog. C'est possible. Ce n'est pas une nécessité.
C'est quoi Milchemet Gog ou Magog ?
Je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube. J'ai deux cours entiers, trois cours entiers sur Gog ou Magog. Qui s'appelle Gog ou Magog 1, Gog ou Magog 2. Et Gog ou Magog 3.
C'est le grand mot.
T'as vu ou pas ?
C'est sur quoi ?
Sur ma chaîne YouTube.
Oh, d'accord.
Donc tu marques, graphison, Gog ou Magog, et tu vas avoir les trois. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, où venez Gomer, Ashkenaz, Verifat, Vetogarma ? Ah bah tiens, voilà d'où ils viennent. Ashkenaz, c'est quoi Ashkenaz ?
L'Allemagne.
Oui. Alors ça s'appelait pas l'Allemagne à l'époque, évidemment. Mais les peuples d'Europe centrale, ça va être Ashkenaz. Bene Yavan, Elisha, Vetarshish, Kitim, Vedodadim, Me Ellen, Nifredu, Iye, Agoyim, Barzotam, Ishlil, Shonol, Mishpechotam, Begoyehem. Très bien. Ça, c'est pour Yefet. Ou Bene Ham, Kush, ou Mitzraim, ou Put, ou Knaan. Donc là aussi, on a des noms qui nous sonnent très connus. Kush, Mitzraim, l'Égypte, évidemment. Knaan, on connaît très bien. ובני כוש סבא וחבילה וסבתא ורעמה וסבתך ובני רעמה סבא ודדן וכוש ילד את נמרוד. והוא החל להיות גיבור בארץ. נמרוד. נמרוד, son nom est tout indiqué. On va voir ce qu'il va faire. Mais Nimrod, il est présenté comme quelqu'un de gibor.
Ça veut dire quoi, Nimrod?
Nimrod, nous allons nous révolter.
C'est lui qui a fait la tour.
Ah oui, c'est lui qui plus tard fera la tour de Babel, effectivement. Donc, Verrouche est là, c'est Nimrod. Mais regardez comment on nous le présente. Où aya Gibor Tsaïd, Livna Hachem.
Gibor, c'est pas comme tzadik.
C'est vrai que Gibor, c'est pas tzadik, mais Ezeu Gibor.
Ça veut dire.
Akovesh et Titzro.
Physique.
Oui, mais la Mishnah nous dit Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro.
Ouais.
Donc, il est aussi physique parce qu'on nous dit qu'il est Gibor Tsaïd, Livna Hachem.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire qu'il y a, oui, un potentiel énorme pour cet homme-là. Et d'ailleurs, regarde ce qu'il va faire. Vatei reshit mamlachto bavel. Ve'erech ve'akad ve'kalne ve'eretz shinar. Nimrod est le fondateur de l'État. Jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu de pays. Il y avait des communautés humaines qui vivaient ensemble. Mais il n'y avait jamais eu de pays. Il n'y a pas de frontières. Et là, Nimrod crée la Mamlacha, le royaume. Il est le premier roi de l'histoire. C'est pas mal. Et c'est où son royaume ? Babylone. Alors, ça tombe pas mal, parce que quand on regarde un petit peu dans les vestiges archéologiques, machin, ben, on parle de la Mésopotamie, de Sumer, comme étant les premières cités-états de l'histoire, telles qu'on les, enfin, pour l'instant, de ce qu'on a retrouvé. Maintenant, c'est quand ? Est-ce qu'on pourrait dater Nimrod ? Plus ou moins, plus ou minus. C'est le petit-fils de Ham. Ouais ? C'est l'arrière-petit-fils donc de Noah. Donc, combien de temps sépare Nimrod et Noar ? Allez, une centaine d'années. Centaine d'années. Donc, c'était quand le déluge, rappelez-moi ? C'était en quelle année ? On se rappelle ?
Non.
Mais si, on se rappelle. C'était en 1656.
Avant.
Non. Depuis. C'est-à-dire pas avant notre ère. En 1656, depuis Adam Arichon. Ce qui veut dire...
400 ans, non ?
Quoi ?
300 plus 100. C'est hein? 400 ans qu'il est...
Je n'ai pas compris.
Et 400 ans de différence entre Nimrod et le déluge.
Ah oui, oui, effectivement. Entre le Nimrod, entre le déluge et Nimrod, il y a à peu près 400 ans d'écart. Quoique, je ne suis pas certain d'accord avec toi. Parce qu'à aucun moment, on nous a dit qu'il fallait attendre que Noé meure pour commencer à avoir des petits-enfants. Donc moi, je pense qu'au contraire, il y a une centaine d'années entre la fin du déluge et la naissance de Nimrod. Mais pour me donner un ordre d'idée, Nimrod, c'est un contemporain d'Abraham. Il est plus âgé qu'Abraham, mais c'est un contemporain d'Abraham. Donc ça veut dire que Nimrod, c'est plus ou moins aux années 1900 de l'ère juive. Nous sommes en 5782. Donc ça veut dire que Nimrod, c'est il y a à peu près 3700 ans, 3800 ans. D'accord ? Donc ça veut dire que c'est pas si longtemps. Et effectivement, les premières cités, les premières cités-états, ça a 4000 ans à peu près. Donc on est pas mal. OK ?
Question. Oui. Pourquoi est-ce que Noé vit autant de temps et après on repasse sur des
Ah, ça on avait évoqué cela avant. On avait évoqué cela il y a moult lorsqu'on avait vu les gens comme Metushelah. On a dit parce que, semble-t-il, ils puisent leur vitalité pas seulement de la nourriture qu'ils mangent. Et d'ailleurs, on a dit, c'est certainement pas tout le monde qui vivait 900 ans. Certaines personnes dans chaque génération qui puisaient leur vitalité directement de Dieu. C'est ça ? Ok. Donc, on a créé donc à Babylone le premier royaume de l'histoire. Mina Aretzai Yatsa Ashur. Ah bah tiens, il y a un homme qui était à Babylone, mais qui en est parti. Le Midrash nous dit, oui, quand ils ont commencé la tour de Babel, lui, il a décidé de ne pas souscrire à cette politique communiste. Parce qu'on va voir, la tour de Babel, c'est le communisme à l'état pur. Et donc, il a décidé, et c'est qui cet homme-là ? C'est Ashur. Ah, tzadik Ashur. Ouais, ouais, bien sûr, tzadik. Pourquoi il est parti ? Minaret sa'i yatsa Ashur, va yven et Ninve, v'et Rechovot, ir, v'et Kalach, v'et Resen ben Ninve ou ben Kalach, i, a ir a Gedola. Pourquoi il est parti Ashur ? Pour faire quoi ? Pour faire Babel 2. En fait, il était juste pas content que ce soit pas lui le chef. Donc il est parti pour faire la même chose que Nimrod ailleurs. Il voulait être calife à la place du calife.
C'était son nom, Ashur, ou c'était le nom de la ville ?
C'était son nom, et donc il a donné son nom au nom de la ville.
Ville.
Oui, bien sûr, c'est le nom d'un empire.
Oui.
L'empire de la Assyrie, Mamlechet Ashur, ça va devenir un des plus grands empires de l'époque. Il va être plus puissant que Babylone. Enfin, avant que Babylone devienne véritablement puissant, c'est Ashur qui va contrôler le monde.
Il sera plus grand que
Sumer. Oui. Ok ? Donc, on voit que Ashur.
Il s'appelle Ashur.
D'accord ?
Il n'y a pas un rapport avec l'écriture ?
L'écriture Ashurite ?
Oui.
Non, aucun. L'hébreu s'appelle dans le Talmud Ashurite parce qu'elle est droite.
Parce qu'elle est ?
Droite. C'est, quand on parle de Ktav Ashuri, c'est l'hébreu que nous, on connaît aujourd'hui, qu'on apprend à l'Ulpan, pas l'hébreu cursive qu'on écrit. C'est l'hébreu qu'on retrouve dans les livres parce que ce sont des lignes droites. Yachar. Ashur, Yachar. Ok, donc c'est des écritures comme ça, de droite. À l'inverse de ce qu'on appelait le Ktav Ivri Kadum, qui était beaucoup moins droit que celui-là. D'accord ? Donc, Vayven, ok. ומצרים ילד את לודים ואת נעמים ואת להבים ואת נפתוחים ואת פתחוסים ואת כסלוחים אשר יצאו משם פלישתים ואת כפתורים. Vous comprenez que tous ces engendrements dont on nous fait part, à chaque fois c'est pour arriver à la personnalité qui nous intéresse. Quand on a parlé de Cnan, maintenant on a parlé de Nimrod, c'est pas couche en soi qui est important. C'est parce que Cush, il va être le père de Nimrod. Là, on nous parle de Mitzrayim, c'est très important. Mais après tous les autres, pourquoi est-ce qu'on nous en parle? Parce qu'à un moment donné, ça va amener à Plishtim. Ok? Et tous ces noms-là résonnent pour le juif qui lit la Torah. Et là, je vais vous demander d'utiliser vos doigts et de compter. Combien sont les enfants de Kenan? Alors, je reprends. וכנען ילד את צידון בכורו ואת חט ואת יבוסי, יבוסי ואת האמורי ואת הגרגשי ואת החיבי ואת הערקי ואת הסיני ואת הערבדי ואת הצמרי ואת החמתי ואחר נפוצו משפחות הכנעני. Alors, combien d'enfants?
12.
11. Mais combien y a-t-il? Combien y a-t-il de peuple cananéen? 12. Puisqu'il y en a un, il s'appelle Knan.
C'est-à-dire
que c'est tous des cananéens, mais il y a un des 12, c'est Knan lui-même. D'accord? Donc ça veut dire quoi? 12? Ça ressemble à quelque chose que je connais. Hein? C'est intéressant. Ok, on verra. On verra plus tard. Vaïkvou la Kananéen mitzidon boacha gerara ad azza. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir maintenant quelles sont les frontières du cananéen? Ben vous avez compris que c'est pour savoir qu'est-ce que nous on va prendre. N'oubliez pas que ça, ça raconte l'histoire de Noach, mais c'est donné à qui par qui? C'est donné à Obné Israël par Moshe quand on sort d'Égypte. Donc on prépare la conquête d'Israël. Donc voilà, voilà les frontières des Canaanim. אלה בניכם למשפחותם ללשנותם בארצותם בגויים. Voici les enfants de Ham selon leur famille, selon leur langage, selon leur terre et selon leur nation. Parce que ça y est, on parle de nation. Ulechem yulad gamhu. Bah oui, lui aussi Shem, il a le droit d'avoir des gosses. Yulad gamhu avi kol bene ever achi yefet agadol. Quand on avait dit que Ham, on dit qu'il est le père de Canaan, ça voulait dire que c'est Canaan qui donne le ton. Donc là, on va faire pareil pour Shem. Il est le père de tous les enfants de Ever. Donc qui est le véritable patron de la famille? Ever. Et la famille sera donc appelée au nom de Ever. Comment est-ce qu'on pourrait appeler la famille?
Ivrim.
Ivrim. Ever, Ivrim. En hébreu, en français, comment on appellerait ça?
Hébreux.
Ah tiens, des Hébreux. Voilà d'où nous sommes Hébreux. Maintenant, Ever, c'est qui par rapport à Shem? Regardez, c'est pas son fils. Ubnei Shem, Eilam, Ve'Ashur, Ve'Arpachshad, Ve'Lud, Ve'Aram. C'est pas le même Ashur, hein, évidemment. Ok? À votre avis, ça va être qui le patron de la famille? Qui va être l'homme qui va poursuivre la famille? Elam, Ashur, Arpachshad, Oloud. Hein, lequel vous préférez? Bon, c'était une bonne idée, mais non. Ça sera Arpachshad. Eh oui. D'ailleurs, moi je me dis toujours, pourquoi est-ce qu'on parle d'antisémitisme? On pourrait parler d'anti-arpachshaditisme. Bon, c'est peut-être un peu trop dur à dire. C'est pour ça que les gens, ils sont pas... Ça doit être ça. Alors Arpachshad, lui, il va avoir un fils. והרפרשד ילד את שלח. ושלח ילד את עבר. Donc, c'est-à-dire que עבר, c'est l'arrière-petit-fils de Shem. Mais c'est lui qui donne le ton à la famille. Et nous disent nos sages, עבר était prophète. Comment on le sait? ולעבר יולד שני בנים, שם האחד פלג, כי בימיו נפלגה הארץ. Donc, Ever, il a deux fils. L'un, il l'appelle Peleg. Pourquoi? Parce que dans la génération de son fils, il y aura la tour de Babel. Niflega aret, dora palaga, l'éparpillement. Mais comment il peut savoir que dans la vie de son fils qui vient de naître, il y aura la tour de Babel? De là, nos sages nous disent, Ever était donc prophète. Et donc, en fait, c'est lui qui va transmettre la réalité prophétique jusqu'à Avraham. D'accord? Donc, Ever, il a deux fils, un qui s'appelle Peleg et l'autre qui s'appelle Yoktan. Veoktan yalad et. Combien d'enfants il a? On va voir. Almodad, vet Chalef, vet Hatzarmavet, vet Yarach, vet Adoram, vet Uzal, vet Dikla, vet Oval, vet Avimael, vet Sheva, vet Ophir, vet Havila, vet Yovav. Hein? 13. Kol Ele ben Yoktan. Alors, la vérité, vous avez raison, c'est 13, mais en fait, c'est 12 plus 1.
Bah oui, c'est 13, c'est toujours.
Non, mais pourquoi? Parce que Dikla, c'est une fille.
Ah,
oui. Ouais, les autres c'est tous des mecs. Nachon. Sauf que là, ça ressemble encore plus à quelque chose que je connais. Eh oui, 12 tribus et Dina. Mais attendez. Ben oui, mais je me rends compte que chez les enfants de Ham, il y a eu Knan qui a eu 12 enfants, mais c'est pas lui qui fait passer l'histoire des enfants de Ham. C'est Mitzrayim. Je me rends compte que chez les Hébreux, il y en a un qui a 12 enfants plus une fille, enfin 12 garçons et une fille, et l'autre, il a un fils. Et par qui ça passe? Par celui qui a un fils. À chaque fois qu'on va voir une famille où il y a d'un côté un qui a 12 plus 1 et de l'autre un descendant, ça passe par le un descendant.
Ils avaient tous la même femme.
Ou pas. L'ODA. Non, il y avait plusieurs femmes, c'est pas le problème. Non, on n'en parle pas ici. Mais ce que je veux te dire, c'est que à chaque fois qu'on voit deux frères qui doivent continuer la famille, et il y en a un des deux qui a 12 enfants et l'autre un, ça passe par celui qui en a un. Parce que les 12, c'est les mois de la lune. Et le 13e, justement, pour le 13e mois qui va, des fois, ramener la course de la lune par rapport au soleil. Qui est dominant, le soleil ou la lune? Le soleil. Et d'ailleurs, on va le retrouver entre Abraham, par exemple, et son frère Nahor. Son frère Nahor, lui aussi, il a 12 enfants. Et Abraham, il en a un. Et ça passe par Abraham. D'où la question, comment ça se fait que lorsque Yaakov arrive avec ses 12 enfants plus une fille, et Esav, non, ça passera par lui et pas par Esav. Il faudra voir ça dès qu'on arrivera à Yaakov et Esav. En tout cas, Vayi Moshava Mesha Boacha Sephara Har Kedem Elle Beneshem Mishpechotam Mishonotam Barzotam Legoyehem. Donc le même verset qu'on a vu avec Ham revient chez Shem. Voici les enfants de Shem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur terre et selon leur nation. Elle mishpechot ben Noach le toldotam begoyehem ou me'ele nifredu agoyim be'eret ba'aret secha achar amaboul. Donc, nous venons de terminer le chapitre 10 en disant voilà toutes les familles et toutes les générations, juste après le déluge. Et on me présente ces familles comme ayant plusieurs langages. Ron ? Donc comment est-ce qu'on va comprendre le verset qui suit ? Comme la Ganénette nous l'a expliqué ? Hein ? La Ganénette nous avait dit que l'histoire de la tour de Babel, au début, ils avaient tous la même langue.
D'accord ? Mais il y a Chou qui s'est tiré.
Mais là, il n'empêche que c'est pas la question.
C'est pas la même langue,
on nous a quand même dit, la Ganénette nous a dit, qu'au début, ils avaient tous la même langue. Et que Dieu, il a mélangé les langues, et c'est pour ça qu'ils ne se comprenaient plus. Sauf qu'on vient de lire que c'est pas vrai. Que la Ganénette nous a menti. Ou sciemment ou inconsciemment, elle nous a menti. Puisqu'on vient de lire. Ils avaient déjà plusieurs leshonot. Et les enfants de Ham aussi, et les enfants de Yéphet aussi. C'est écrit noir sur blanc. Donc c'est en sachant cela que nous pouvons arriver à l'histoire de la tour de Babel. Vaikola aretz safa echad udvarim achadim. Alors ils avaient tous.
Alors.
Quoi? Comment il traduit, toi?
Une seule langue.
Il traduit toute la terre avait une même langue.
Ben voilà.
Et des paroles semblables.
Ben voilà. Ben voilà.
Mais c'est pas vrai.
Ben non, c'est pas vrai. D'ailleurs, c'est mal traduit. Moi, j'étais à l'Ulpan. Qu'est-ce que veut dire le mot lachon?
Langue.
Langue. D'ailleurs, quand tu vas chez le boucher et que tu lui dis un irotse lachon, qu'est-ce qu'il te donne? La langue. Ça veut dire quoi en hébreu, safa? Bah non, pas langue.
Un idiome.
Ah, c'est pas mal.
Ça veut dire un langage.
Mais non.
Non,
non, non, ça veut pas dire ça.
Safa.
Chaha.
Non, c'est pas
Sfataim, parce que tu en as deux.
Donc pourquoi on dit pas Safaim?
Parce que ça sonne pas bien. On a rajouté on a transformé le hé en thé, en tav, mais ça c'est normal. Sfataim, Safa, c'est la lèvre. La forme, Shafa, c'est pas pareil. Donc effectivement, ils ont déjà plein de léchonot. Aval vayi kol haaretz Safa. Quelle est la différence? La chaune, c'est pnimi. C'est à l'intérieur, au niveau du corps aussi. La lèvre, c'est à l'extérieur. Donc, la chaune, c'est la langue, c'est le dialecte. C'est intérieur, c'est propre à chaque culture. Aval, safa, c'est la culture.
Ah oui, c'est comme l'hébreu de Yiddish.
Non. Non. Je dirais que il y a le Yiddish land, si tu veux aller dans la comparaison du Yiddish. Là, il y a le
Yiddish land ou autre chose.
Non, mais prenons le Yiddish, deux secondes. Prenons le Yiddish. Il y a la culture Yiddish, l'humour Yiddish, le théâtre Yiddish, ce que tu veux. Attends, c'est une culture particulière. Il y a des insultes en Yiddish, des blagues en Yiddish que mes amis marocains ne comprendront jamais.
Jamais.
Hein, jamais.
Ah, est-ce que je rate vraiment quelque chose?
Ah oui.
Tu peux pas imaginer ce que tu rates.
Et évidemment. Je te souhaite d'être comme un calendrier. Qu'on t'accroche au mur et que tous les jours, on t'enlève un morceau.
Une page.
Ça, c'est de la...
Comme un poireau.
Oui. Ça sonne vachement mieux en yiddish. Mais en tout cas, donc il y a cette culture. Mais on parle pas le même yiddish quand on habite en Galicie que quand on habite à Vilna. On ne parle pas le même yiddish quand on est. Alors, évidemment, c'est le même tronc, mais l'accent change, les formules changent. C'est-à-dire que dans une même culture, et on a tous la même, on va avoir des dialectes un petit peu différents. Eh bien, c'est de cela qu'on parle. C'est-à-dire que Kol Haaretz, Safa, Echad. Ils ont tous la même culture, le même objectif. Mais ils ont chacun des langages différents en fonction de leur identité. Ok, c'est de cela dont on est en train de parler. Donc on nous dit ici, va école arrête safa echad. Nous dit Rashi, c'était quoi cette safa echad? Lashon HaKodesh. Ça veut dire quoi Lashon HaKodesh? Ils parlaient tous hébreu? Non. Et là, que veut dire le mot Lashon HaKodesh? Enfin les mots. Ça veut pas dire la langue sainte. Parce que.
La langue pour étudier, la langue pour.
Traduction littérale. Littérale. Lashon HaKodesh,
oui.
Ça ne veut pas dire la langue sainte. C'est une erreur de traduction qu'on fait souvent, comme d'ailleurs on dit Eretz HaKodesh. On traduit ça malheureusement par la terre sainte. C'est faux. Parce que pour dire la langue sainte, on dirait Lashon HaKedosha. Oui. Ou alors Eretz HaKedosha. Eretz HaKodesh ou Lashon HaKodesh, ça veut dire la langue du saint.
C'est plus logique.
Ben oui, d'abord c'est plus logique, mais ça veut surtout pas dire la même chose. C'est-à-dire que la langue qui permet de dévoiler le saint, la terre sur laquelle on peut dévoiler le saint. Donc évidemment que l'hébreu c'est plus facile. L'hébreu est propre et propice pour être la Lashon HaKodesh puisque le saint s'est dévoilé en hébreu. Mais toute autre langue peut être la Lashon HaKodesh. Ça sera plus dur. Mais tu peux faire un cours de Torah en français. Ça ne veut pas dire que la langue de Molière, c'est tout le temps la Lashon HaKodesh. Bien sûr que non. Il y avait un film à l'époque, une époque où les gens de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il y avait un film qui s'appelait Matrix 2.
Maintenant, t'as Matrix
3. Je sais, non, il y a 4 maintenant. Il revient, c'est le 4. Et il y avait une scène où il y avait, dans le film, il y avait un homme qui se faisait appeler le Mérovingien. Et joué par Lambert Wilson, si je ne m'abuse. Mm-hmm. Et sa scène d'introduction, c'était qu'il parlait en français, même dans la version en VO. Et il disait, j'adore les jurons français. Alors, en français, il y a une quantité incroyable d'insultes. Bon, c'est pas toujours facile de dévoiler le Kodesh avec le français. Mais tu peux. Ça peut devenir la Lashon HaKodesh. Donc quand on te dit que toute la terre avait Safa Achat, ils avaient un objectif, c'était de faire le lien avec Dieu. On va voir si c'est pour le bien ou pas pour le bien, mais c'était ça l'objectif. Après, chacun, il l'avait dans sa langue. Ok ? Il y avait une culture mondiale, mais qui était parlée différemment. OK? Donc voyez qu'on arrête sa fa echat ou dvarim achadim. Mazé dvarim achadim. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Nous dit Rashi. Qu'est-ce que c'est quoi le projet? Rashi nous dit dvarim achadim. Il y a plusieurs infos. Où est-ce qu'il est celui-là? Ah oui, il a commencé de l'autre. Dvarim achadim. Baou beitza achad ve'amru. Lo kol eimenu sheyavor lo et ha'elyonim na'ale larakia ve'na'aseh imo milchama. Donc, premier projet, on va monter dans les cieux et on va faire la guerre à Dieu. Deuxième projet, davar acher, al yichudo shel olam. C'est-à-dire, sur Bichlal, la place qu'occupe Dieu. Davar acher, amru, achat le elef ve shesh meot ve chamishim ve shesh shanim, arakia mitmotet. Bou na'aseh lo samochot. Une fois tous les 1656 ans, le ciel nous tombe sur la tête. Faisons-lui des piliers. Ah mais là, il va falloir qu'on comprenne parce que ce n'est pas des idiots. Le déluge a eu lieu en 1656. Ils se disent, ces gens-là, tous les 1656 ans, il y a la possibilité du déluge. Mais c'est quoi le déluge? C'est quand Dieu il descend. Venez, on va faire des piliers pour soutenir le monde. C'est pas mal.
Et c'est représenté par quoi ces piliers?
Ça va être la tour de Babel qui arrive là maintenant.
C'est ça.
C'est-à-dire que ils étaient très vaillants, les Babyloniens. Ils n'avaient peur de rien, à part d'une seule chose.
Que le ciel,
ne leur tombe sur la tête.
Tiens.
Hein? Et ce qui leur est arrivé à la fin de l'histoire. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé à la fin de l'histoire de la tour de Babel? Dieu les a chassés de là où ils étaient. Comment on appelle ça en hébreu? Chassés de là où ils étaient. L'exil. En hébreu, on dit galout. Hein? Azemayou. Ce sont nos pères, quelque part. Donc c'est avotenu, agolim, ou agalim. Nos ancêtres, les Gaulois. Bah, tu vois.
Donc, on peut quand même dire que nos ancêtres, c'était les Gaulois.
T'as vu?
Ça a fait plaisir à Zemmour.
T'as vu ou pas?
Il ne sait pas, lui, encore.
S'il voit le cours, il...
Alors, si tu nous regardes, Eric.
Retweet-moi.
Bekitsour. Alors, ok. Maintenant, comment la tour de Babel va régler le problème? Parce qu'ils ne sont pas bêtes. À aucun moment, ils pensent que la tour, elle va soutenir le bleu du ciel. Ce n'est pas ça, le débat. Ils savent tous très bien que ce n'est pas une question de pluie, que c'est une question de divin. Donc, en quoi la construction de la tour va régler le problème? Quel a été le problème qui a amené le déluge? C'est que les hommes étaient pourris les uns avec les autres et que Dieu nous a jugés. Donc, on a deux problèmes à régler. Le rapport entre les hommes et le fait que Dieu ne nous juge pas. Et là, voilà comment on va régler le problème. Iné. Vayi benos am mikedem. Je suis au verset bête. Ouais. Vaï benos am mikedem. Ils ont voyagé depuis. Où? C'est où Kedem? L'Orient, l'Est. Donc s'ils viennent de l'Est et qu'ils vont.
Kedem, ça fait référence au soleil?
Oui. L'Est s'appelle Kedem dans la Torah.
D'accord.
Maintenant, s'ils viennent de l'Est, donc ils vont où?
À l'Ouest.
À l'Ouest. Voici les inventeurs de la société occidentale, de la civilisation occidentale. Et oui, quel est, on l'avait déjà évoqué, le marqueur principal de la civilisation occidentale par rapport à la civilisation orientale? On avait dit, le marqueur, c'est la volonté d'évoluer, de ne pas se satisfaire de la situation, mais de la faire avancer. Alors qu'en Orient, et particulièrement en Extrême-Orient, on veut rester dans le statique.
Avec tout.
Eux, ils veulent avancer. Benos am miked. Donc on veut faire avancer les choses. Ok, voilà les inventeurs de la civilisation occidentale. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Vaim tseu bika. Ils ont trouvé une bika. C'est quoi une bika? Alors vallée, c'est une emek. Bika, c'est
une fente.
Hein?
Une
grande plaine.
Bon.
Une plaine.
Ah bah oui, la plaine de la bika pour aller à.
Oui.
Oh,
ok.
Ah oui, d'accord.
Donc ils ont trouvé une plaine. Ils veulent construire quoi, rappelez-moi? Une tour qui va très très haut. Il n'aurait pas mieux fallu la construire d'abord sur une montagne, commencer déjà de haut. Là, il commence sur une vallée. Bon, deux secondes, ils veulent prendre une tour. Quelle est la matière première la plus facile pour faire une tour ?
Les briques.
Les pierres.
Les pierres.
La terre.
Ils sont déjà là. La terre. Faire une tour. Parce que vous pensez déjà à Rue, mais j'ai des pierres. Toi, tu me dis que c'est plus facile de fabriquer des briques. Mais pourtant, c'est ce qu'ils vont faire. Regardez. וימצאו בוקה בארץ שינה וישבו שם ויאמרו איש אל אחיו איש אל רעהו סליחה הווה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחומר. Ils vont maintenant fabriquer des pierres manufacturées. Mais c'est une brique, c'est une pierre faite par l'homme. En d'autres termes, on règle le premier problème, le rapport à Dieu. Dieu me juge, mais à une seule condition, c'est que je sache qui il est et que je connaisse sa loi et je la transgresse. Si je ne connais plus sa loi, si je ne le connais plus, il ne peut pas me juger. Le concept de Tinok Shenishba Ben Agoim, un enfant de 1 an qui a été abandonné et, par ses parents sur le parvois d'un couvent pour le protéger de la Shoah. Et les parents sont morts à Auschwitz et le bébé a grandi chez les bonnes sœurs et elle est devenue bonne sœur. Et à 25 ans, elle découvre qu'elle était juive. Est-ce qu'on peut lui tenir rigueur des Shabbats qu'elle n'a pas fait ? Bien sûr que non. C'est ce qu'on appelle Tinok Shenishba Ben Agoim. Si je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, ça ne marche pas quand tu vois le flic qui t'arrête parce que tu as un excès de vitesse. Tu ne peux pas lui dire « je ne savais pas ». Ça ne marche pas. Mais dans la halakha, ça marche. Dans la halakha, si tu ne connais pas la loi, tu n'es pas tour. Nul n'est censé. Mais si je l'ignore.
Oui. C'est vrai ? Et ils ne connaissaient pas la loi ?
Ben là, le but, c'est ça. Si je leur fais maintenant faire des briques, je m'éloigne autant que possible du Créateur. Je n'ai plus besoin de tes pierres à toi, je fais des pierres à moi. Je n'ai pas besoin de ta montagne, je vais faire une montagne à moi. Nimrod, lui, le patron, lui, il connaît. Mais les autres, ça va créer une société qui est éloignée de Dieu, qui ne le connaît plus. Donc ça règle le premier problème. Mais le deuxième problème, le rapport entre les hommes, comment on le règle ? Bah, c'est simple. Hava. Mazé Hava. Hava veut dire, littéralement, c'est un petit mot, hein. Hava, ça veut dire, n'est-ce pas qu'on est tous d'accord que...
Abi.
Tu connais pas Hava Nagila ?
Hava Nagila.
Hava Nagila.
Oui,
ça veut dire quoi ? Ça veut dire allez, faisons la fête. Et gare à celui qui n'est pas d'accord. Hava, Shlomo m'a dit que lorsqu'il a expliqué, Shlomo Balzan m'a expliqué, que lorsqu'il était en Russie et qu'il a essayé de faire un peu de judaïsme avec les. Et qu'il leur a parlé de ce texte-là, il n'y avait pas besoin de leur expliquer. Ils avaient tous compris que Nimrod, c'était Staline. Parce que c'est exactement ça. Hava nivne la nu'ir. Ça veut dire, on est tous d'accord, n'est-ce pas ? Il y en a deux, trois qui ont émis une objection. On les a plus revus. C'est Hava. C'est exactement ça. Donc, comment est-ce qu'on va régler le problème ? Ben maintenant, on va être tous devant le même et seul objectif. Hava nilbena levenim venisrefa lisrefa veteyeh lahem alevena leaven vachemar yalehem lechomer vayomru hava nivne lanu ir umigdal verosho bashamayim venaaseh lanu shem pen nafutz al pene kol haaretz. Donc l'objectif, c'est de construire une tour qui va arriver jusqu'où?
Aux cieux.
Jusqu'aux cieux. Ça va prendre longtemps? Bah oui. C'est-à-dire que c'est une infinité de temps. L'objectif, c'est que cette tour, elle ne finisse jamais. Et donc, il y a des gens qui vont naître, le chantier sera déjà en place, ils vont vivre 100 ans, ils vont mourir, ça ne sera toujours pas fini. Toutes les forces de l'humanité sont tournées vers la tour. Donc, il n'y a plus de problème. On n'a plus de tacharout. Pourquoi est-ce qu'avant, à l'époque du déluge, les gens se disputaient tout le temps parce qu'ils pensaient que ça, c'est à toi, mais en fait, c'est à moi. Mais ça, là, il n'y a plus de notion de propriété, tout appartient à l'État. Tout appartient à la tour.
Communisme, quoi.
C'est pas chaud un communisme avant l'heure. Ouais. Et ça marche, hein ? Ça marche ! ça réunit les êtres humains. Nous disent Razal, la génération de la tour de Babel était aussi pourrie que celle du déluge, mais pourquoi elle n'a pas été détruite? Parce qu'au moins ils étaient ensemble. Pour de mauvaises raisons, mais ils étaient ensemble. Ça a tellement bien marché que le Midrash Rabbah nous dit qu'un des hommes que Nimrod a réussi à convaincre, c'était Abraham, du haut de ses 48 ans à l'époque. Abraham faisait partie des constructeurs de la tour de Babel. Parce qu'il sentait qu'il y avait un truc qui n'allait pas, mais l'humanité est unie. Donc c'est bien d'être unie.
On peut être unie dans un mauvais sens.
Ben oui, c'est quoi le mauvais sens? C'est qu'ici, on n'a pas créé d'unité. On a créé l'unicité.
Ah oui, c'est ça.
Et gare à celui qui ne serait pas comme tout le monde. Vous avez vu ce très bon film, j'imagine, La Vague.
Terrible.
Tu l'as vu? Vous n'avez pas vu?
Non.
Alors, vois-le, tu vas kiffer.
Il est sur YouTube.
Tu vas vraiment apprécier. C'est un bon film. C'est un film allemand. Mais il est bien quand même.
La Vague.
Non, mais il existe en français. Hein. Il existe en français, je l'ai déjà vu. C'est un prof en Allemagne, dans un lycée, qui veut expliquer comment c'est très facile de tomber dans le fascisme et le totalitarisme. Et il fait une expérience avec sa classe. En une semaine, la classe devient fasciste. Maintenant, et donc voilà, ils font tout un truc. Le premier jour, ils se mettent d'accord sur un uniforme. Et il y a une des élèves qui vient, ils disent chemise blanche, pantalon en jean. Et le lendemain, il y a une des élèves qui arrive, tout le monde est en uniforme, et elle vient avec un chemisier rouge. En 3 minutes, elle est exclue de la classe. Donc c'est exactement ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, iné. Vayered Hashem, lirot et ha'ir ve et ha'migdal, Asher banu bnei Adam. Vayomer Hashem, en am echad ve safa echad le kulam, ve ze chilam la'asot. Voilà ce qu'ils ont fait suite à cette unicité. Ve ata lo yibatzer mehem kol ish yazmu la'asot. Hava, ils ont fait hava, moi aussi je vais faire hava. Hava nerda ve navla sham sfatam asher lo yishmeu ish sefat re'u. Je vais leur faire comprendre qu'en fait ils n'ont pas tous le même objectif. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et on a vu à l'éclatement du mur communiste, à l'éclatement du bloc soviétique, tout d'un coup, les peuples qui pendant 40 ans avaient... Ben non. Tout d'un coup, il y a plein de minorités qui en fait ont leurs avis à eux. Et bon, ça va créer des guerres terribles. On connaît ça, le Kosovo et la Yougoslavie et tout ce que tu veux. Mais c'est normal. Les gens, ils en avaient marre d'être dictés par une loi qui n'était pas la leur. Ils ont arrêté de construire. Ça y est. Alken kara shema Bavel. Ils l'ont appelé Bavel. Lama ki sham balal Hashem sefat kol haaretz. Alors ça va pas du tout. Bavel ki sham balal. Alors pas Bavel, fallait l'appeler Balbel. Eh oui, qui ne veut pas dire car? Des fois, ça veut dire car, mais des fois, ça veut dire kaacher, lorsque. Ils ont appelé cette ville Babel lorsque Dieu a mélangé les Safot. Qu'est-ce que veut dire donc le mot Babel? Absolument pas balagan, mélange. Babel veut dire Bab Ilou. En babylonien, que veut dire le mot Babel? Bab Ilou, la porte des dieux. C'est-à-dire que Babel, ils l'ont appelé Babel parce que c'est là où Dieu s'est révélé à eux, pour les disperser. Mais pas parce que ça ne veut pas dire mélange, ça veut dire la porte du ciel.
Pourquoi est-ce qu'on dit que Dieu est au ciel?
Mais ils savent que Dieu est au ciel, pas dans le bleu. Pas dans le bleu. Mais dans les... Non, bien sûr pas dans le Dieu, mais dans le Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim, ça ils le savent. Mais il est venu ici. Ok? Et donc voilà. Et donc voilà. Ben, une fois qu'on a dit ça, la tour de Babel est terminée. Et il va falloir maintenant essayer de trouver une autre solution pour réunir l'humanité. Et ça, ben, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine.
Quand on dit Babel, ça vient de là.
Exactement. Exactement. Chazak ou Baruch.